Nicolas Nova, bonjour.
Bonjour à vous.
Donc vous êtes invité ici par l'Ouvre-Lance Valais et vous avez réalisé ce matin, je ne sais pas si on peut dire une conférence, une présentation d'un concept.
Oui, j'ai présenté cette notion de design fiction, qui est une type d'approche pour penser, imaginer des futurs possibles qu'on mène avec nos collègues d'une entité qui s'appelle Near Future Laboratory, qui est basée en Europe et puis aux États-Unis.
Donc le concept, en fait, c'est d'imager des propos qui sont imaginés par d'autres. Ça peut être aussi votre propre conception du monde. Comment on croise tout ça?
C'est vrai qu'il y a l'idée de, quand on se projette demain, c'est de produire une forme de récit ou d'imaginer sous quelle forme ça se produit. Le problème souvent, c'est que ça se produit sous la forme récit textuel. Alors, c'est pas inintéressant, ça peut exister, ça existe dans la science-fiction, dans les récits de prospective. Mais nous, ce qui me semblait intéressant, c'est de trouver une forme ou des formes qui soient plus accessibles et d'utiliser des objets, un peu de la banalité du quotidien. Comment on représente le futur de l'alimentation avec un paquet de céréales fictif, un catalogue d'objets qui n'existent pas, un manuel de produits qui n'existe pas encore. C'est une manière de rendre lisible, accessible, pour faire prendre conscience de ces changements et aussi faire débattre sur la désirabilité, la pertinence, la plausibilité de ces évolutions.
Donc une manière de réfléchir sur les évolutions et que vous accompagnez d'une certaine manière.
Oui, c'est une façon de rendre lisible, accessible des changements auxquels on n'associe pas forcément la majorité de la population. Quand on parle d'intelligence artificielle, de véhicules autonomes, de nouvelles formes de mobilité, c'est des grands mots comme ça, très abstraits, et qui font que des gens qui pourraient se sentir concernés se sentent souvent dépossédés, en fait, parce que ça paraît technique, aride, un peu sec. Et là, de le montrer d'une manière à ce qu'on en comprenne, ce que ça change dans le quotidien, c'est une façon d'accompagner une discussion, un débat, on pourrait dire une réappropriation de ces questions qu'on n'aborde pas avec un public plus large.
Alors ce matin, il y avait un public qu'on peut peut-être définir, mais qui était forcément intéressé. Un public peut-être de nouvelles entreprises, par exemple. Par contre, le public citoyen, comment il peut s'approprier les choses? Comment il peut être ne pas dépossédé aussi de ses capacités à agir et à penser?
C'est vrai que bien souvent, quand on parle de ces démarches, il y a un côté aussi un peu, pas élitiste, mais en fait, ne viennent que les personnes qui sentent un intérêt, une fibre. Nous, ce qui nous interpelle par rapport à ces démarches de fiction, c'est de trouver des contextes dans lesquels on peut amener ça vers les publics ou les personnes qui ne sont pas sollicitées. Travailler avec un centre culturel, travailler avec un festival de quartier organisé par une municipalité ou parfois avec une entreprise avec ses utilisateurs aussi. Et d'aller auprès de ces personnes-là pour soit co-construire, soit faire réagir par rapport à ces propositions. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable, il n'y a pas toujours des budgets pour ça, mais c'est une manière de venir un peu chambouler à qui on s'adresse et qui est concerné, en particulier dans les champs qui sont les nôtres sur les technologies. C'est souvent les gens éduqués plutôt qui sont passés par le monde académique, alors qu'en fait, tout le monde devrait pouvoir y participer. Donc, il faut arriver à identifier des endroits, alors parfois dans le cadre de projets qui sont financés, parfois des choses qu'on fait par nous-mêmes, pour aller au contact d'autres personnes. Là, en ce moment, je travaille sur des questions liées aux Alpes, au futur des écosystèmes d'altitude. Il faut que j'aille trouver des personnes qui ne seraient pas sollicitées par ces démarches de design fiction pour venir en fait provoquer une discussion, une conversation qui n'a pas lieu d'habitude en fait.
On peut dire d'une certaine manière c'est un média qui facilite des choses, qui facilite la compréhension peut-être, mais le projet sûrement.
Oui, l'idée d'un média ou d'un objet de communication qui, comme tout objet de communication, doit être conçu avec ses formes, avec ses formats, avec ses standards, qu'on peut utiliser pour faire comprendre. Le fait de tout simplement faire, des affiches dans la rue qui mettent en scène des phénomènes qui ne sont pas arrivés, c'est un vocabulaire graphique que tout le monde connaît. Donc ça veut dire que ça croise des questions de design graphique, de communication, d'expertise sur le sujet, de manière d'aller toucher, en fait, de penser à une audience particulière par rapport à des sujets où cette audience est en général dépossédée.
Alors je crois que vous êtes formateur aussi ou concepteur de formation dans des endroits où des personnes viennent se former à vos techniques, à vos pratiques pour intégrer ça justement du développement. Alors ça peut être international, national ou local.
Oui, alors j'enseigne dans une école d'art et design à Genève qui s'appelle la HED, et dans laquelle on a des étudiantes et étudiants. Alors, c'est Genève, donc il y a plein de cultures différentes qui viennent apprendre et se former en fait à ces démarches ou à apprendre à observer le monde, à enquêter. Et puis je fais aussi par ailleurs des formations plutôt liées avec, dans le monde de l'entreprise, mais en dehors du contexte académique, là plutôt pour former des gens qui vont utiliser ces démarches-là ou enseigner ensuite à d'autres personnes. Et c'est ce croisement que je trouve intéressant. Parce que ça provoque des réappropriations. Alors moi, avec mes collègues, on a produit ces démarches d'enquête, de design fiction, mais tout le monde peut se les réapproprier, se les mettre à sa sauce pour en faire autre chose dans son contexte. On n'a pas la prétention du tout d'être omniscient.
Alors, on comprend bien que vos principes peuvent s'adapter dans le temps. Pour autant, le temps, en termes d'évolution sur les concepts, etc., et même sur les technologies, évolue tellement vite qu'il est de plus en plus difficile de prévoir l'avenir. Alors, il y a dans votre démarche une partie justement de réflexion sur ce que sera l'avenir, de prospective, mais il y a aussi une partie réflexion sur peut-être qu'est l'homme, le citoyen dans tout cela.
C'est vrai que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis retourné dans le monde académique et travailler sur des questions plus anthropologiques et sociologiques, avec l'idée que derrière ces questions d'accélération, ce sentiment de dépossession de la vie, du fait des changements techniques, il y avait une question de qu'est-ce que c'est que l'être humain aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que anthropologiquement notre manière, dans le monde occidental, de ce qu'on pourrait dire composer des mondes, comment on vit ensemble avec d'autres êtres humains, avec des animaux, avec des créatures diverses, et comprendre qu'il y a d'autres manières de faire qui ont existé au cours du temps ou dans d'autres cultures. Et du coup, ça m'interpelle par rapport à une réflexion plus anthropologique sur la place des objets techniques, qu'il s'agisse du smartphone, des intelligences artificielles, et la façon dont ces objets-là sont pensés à travers certains imaginaires et ensuite reconfigurent nos manières de vivre. Donc il y a une espèce de coévolution qu'il s'agit d'interroger et de remettre dans toute l'histoire de l'anthropologie.
Donc vous êtes venu ici à Lens irriguer le territoire, peut-être en possibilité. Comment voyez-vous votre décalage entre la Suisse, qui est un pays ouvert au monde et très composé, on va dire ça, et un territoire qui a son vécu, son histoire? Est-ce que, avant de venir, vous aviez une petite idée de ce qu'était le bassin de l'Artois, par exemple?
Évidemment, moi je suis français aussi, je suis franco-suisse, donc j'ai évidemment une certaine vision et un certain imaginaire du monde des mines, hein, et du monde industriel, et puis de sa progressive disparition. Mais je connaissais pas Lens, mais je connais la région lilloise, et je vois aussi une région en train de se réinventer à travers toutes sortes de lieux, d'endroits, d'initiatives, hein, là où on est ici en atteste. Et que peut-être, ça c'est à propos, je pense qu'il est important à garder en tête, je pense qu'en France, c'est qu'on a une certaine vision d'autres pays, je pense en particulier à la Suisse, hein, ou le Canada, ou les États-Unis, d'une forme de dynamisme économique, mais que peut-être ça se paye par le fait d'avoir moins de prise de risque, ou d'aventure, ou d'expérimentation, et que je trouve qu'à chaque fois que moi j'interviens, ou que je passe du temps en France, de voir un fourmillement d'initiatives, un bouillonnement, plus de prise de risque et d'aventure, qui sont parfois plus rafraîchissant par rapport à des endroits qui sont plus confortables, parce qu'économiquement ça marche peut-être mieux, mais qui du coup essayent moins. Et j'ai l'impression que les enjeux auxquels on va devoir faire face, du fait de la crise environnementale, des problèmes de trouver un équilibre entre justice sociale, justice environnementale, j'ai l'impression que les expérimentations qui sont menées sur toutes sortes de territoires en France me semblent plus curieuses, des tiers-lieux qui sont réinventés, des nouvelles formes de coopératives, d'entrepreneuriat, d'expérimenter ensemble. Je ne dis pas ça du tout pour dévaloriser non plus le territoire helvétique, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de les prendre, parce qu'en fait la crise est peut-être déjà plus proche à ces endroits-là. Et du coup, moi, je vois des signaux faibles de phénomènes intéressants à constater sur ces territoires. Donc, il faut rappeler ça, parce que parfois, il y a un sentiment un peu de déprise en France, et de pas forcément d'avoir un bon moral. Mais quand on passe du temps sur le territoire, c'est pas l'impression que j'en ai, quoi, pour le dire autrement.
Donc, on est quand même ici dans des contraintes, dans des problématiques qui nécessitent d'avancer et de trouver des solutions. Est-ce que, on va dire, la fonction ne va pas créer l'organe qui imposera que les gens s'imposent, s'intègrent et décident parfois de leur sort et de leur destin et de leur environnement.
Alors ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que les contraintes environnementales, type réchauffement, pénurie d'eau, pollution, qui, alors là, traversent toute l'Europe, il y a à des niveaux différents, mais sur le contexte européen, ça va toucher tout le monde. Donc celles et ceux qui s'en emparent le plus tôt possible pour expérimenter, identifier des pistes de solutions, j'ai l'impression, seront plus avancés et qui arrivent à construire une culture de qu'est-ce que c'est, peut-être une forme de décroissance, mais qui, en même temps, est nécessaire, sauront peut-être être plus à même de vivre avec, alors que d'autres endroits qui ont une habitude d'un certain confort, ça va être plus difficile.
Alors, c'est vrai que les Hauts-de-France et par exemple la région de l'Artois ont en termes de pluviométrie encore, j'allais dire, un peu d'avance, même si on prend du retard, et que c'est peut-être une région qui va être pas sauvée du monde, c'est pas ça, mais qui va pouvoir évoluer et être intéressante et intéressée.
Oui, alors c'est moins la question de ce que c'est la géographie qui fait ça que plutôt le fait que ça amène toutes sortes d'initiatives, d'expérimentations, de compétences, de savoir-faire qui seront pertinentes pour plus tard. Et c'est pas non plus pour dire que ici c'est un territoire extrêmement en crise, il y a quand même plein de choses qui sont aussi pertinentes. Mais bah, ce lieu, en l'occurrence, me semble quand même... j'ai vu des endroits plus dépossédés de leur trajectoire. Mais en tout cas, la construction de savoir-faire et du capital humain me semble un pari, ou en tout cas une hypothèse sur le futur qui peut être tout à fait intéressante.
Voilà, donc ce lieu tendrait peut-être à prouver que là où il y a une volonté, il y aurait un chemin.
J'espère. En tout cas, c'est l'espèce de... Enfin, d'optimisme qu'il faut essayer de tenir et de garder pour pas sombrer dans la déprime ou casser l'action, en fait.
Voilà, et puis la question sera l'intégration des habitants à ce territoire et le fait qu'ils y croient.
Oui, parce que c'est certain que une vision... C'est pas une question d'optimisme, c'est plutôt une question de contribution collective, de vouloir faire des choses ensemble et de s'organiser en tant que tel, parce que c'est souvent, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, il suffit de regarder, par exemple, moi je me suis intéressé pas mal à l'époque aux écosystèmes d'altitude dans les Alpes ou dans le Jura, qui étaient des endroits extrêmement difficiles où habiter, ou des modes de collectifs, de vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que les fruitières dans le Jura, qui ont trouvé des modes de partage et de collaboration par rapport à l'agriculture, par rapport à trouver des formes de protection sociale, alors que c'était pas gagné en fait, vraiment pas gagné. Donc c'est ça qu'il faut rappeler, dans une époque où on croit surtout que la solution va être technologique, alors qu'en fait c'est plus des formes, une articulation entre des formes collectives et puis des technologies ou des changements qui peuvent jouer un rôle.
Voilà, donc des utopies qui peuvent se réaliser, c'est quand même peut-être encore une possibilité.
Ouais, je l'espère, et puis en tout cas, il faut garder cette capacité à rêver à des utopies.